VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Burundi, les forces de sécurité ratissent les quartiers contestataires de Bujumbura à la recherche d'éléments armés. Après les attaques menées par les insurgés ce matin contre deux camps militaires dans le nord et le sud de la capitale, l'ISCAM, l'Institut supérieur des cadres militaires, et le camp de Ngagara. Un troisième camp, celui de la brigade de Mujedjuru, à une quarantaine de kilomètres de Bujumbura, a également fait l'objet d'une attaque. Selon les autorités, les assaillants ont été mis en déroute dans ces trois sites. Bilan d'après le gouvernement, au moins 12 attaquants tués, 21 capturés contre seulement 5 blessés côté militaire. Mais un haut gradé de l'armée a affirmé à l'AFP qu'il y avait eu des pertes des deux côtés. J'ai joint notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Il y a des militaires, des policiers de l'appui pour la protection des institutions qui sont en train de ratisser dans ces quartiers contestataires. Quand ils passent les policiers, ils tirent. Donc, j'ai entendu tout à l'heure dans le quartier où je suis, des gens qui étaient en train de crier au passage de ces policiers. Mais pour le moment, je peux dire que là où je suis, c'est un peu calme.
Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura. L'émissaire spécial américain pour la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, s'est dit alarmé par la violence des combats aujourd'hui à Bujumbura. Il appelle à un cessez-le-feu et à un retour au calme. Au Cameroun, au moins 7 civils tués vendredi matin dans un attentat suicide à Kolofata, localité de l'extrême nord du pays où le groupe islamiste nigérian Boko Haram reste très actif. John Lindon nous en dit plus.
Selon une source sécuritaire locale interrogée par l'AFP, un kamikaze est arrivé sur un lieu de vente de beignets et a actionné sa charge. 8 personnes ont été tuées sur place, dont le kamikaze. C'est la deuxième fois en quelques mois que Kolofata est visée par un attentat mené par un kamikaze. Le 13 septembre, au moins 7 personnes y avaient péri dans un double attentat suicide. L'attentat de Kolofata survient alors que l'armée camerounaise mène depuis fin novembre, dans cette zone et dans d'autres localités frontalières, des opérations de ratissage pour affaiblir les djihadistes nigérians qui restent très actifs entre le nord-est du Nigeria et l'extrême nord du Cameroun. Kolofata est située non loin de Kerawa, une ville camerounaise frontalière du Nigeria qui avait enregistré le 3 septembre l'un des attentats les plus meurtriers perpétré sur le sol camerounais. L'attaque avait fait au moins 20 morts. Depuis juillet, l'extrême nord du Cameroun est secoué par une succession d'attentats attribués aux islamistes nigérians qui ne les revendiquent cependant jamais.
Toujours concernant la lutte contre Boko Haram au Tchad, 2 mois après le retour de leurs frères d'armes du Cameroun, les éléments des forces armées tchadiennes en intervention au Nigeria et au Niger sont rentrés au pays natal ce vendredi 11 décembre 2015. Les Tchadiens ont réservé un accueil triomphal à N'Djamena à ces militaires qui ont combattu le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, aux côtés de leurs frères d'armes nigériens et nigériens, pendant environ 1 an. Notre correspondant N'Djamena André Kodmadjinga nous donne un compte-rendu de la cérémonie de bienvenue présidée par le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno.
Il est 9h, heure de N'Djamena. Idriss Déby Itno, président de la République, arrive à la place de la Nation. Vêtu d'un grand boubou de couleur bleu ciel avec sa traditionnelle canne à la main, il soulève les deux bras en signe de victoire. 9h05, il dépose les fleurs au monument des morts. Rendant hommage aux Fatine, forces armées tchadiennes en intervention au Nigeria et au Niger, tombées en martyrs sur le champ de bataille, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants Benindo Tatola a souligné que cette mission est un fait historique qui a permis non seulement d'anéantir la force de l'ennemi commun de la sous-région, mais elle a permis également de renforcer les coopérations de défense avec les pays voisins du Tchad. Toutefois, il conseille la vigilance.
À toutes les forces de défense et de sécurité, je voudrais dire ceci. Nous avons la ferme conviction que nous pouvons continuer à compter sur vous eu égard à l'environnement sécuritaire, car les forces du mal continuent toujours à nous imposer un climat d'insécurité et se manifestent dans la forme la plus abjecte et plus insidieuse, donc plus meurtrière. Il s'agit des kamikazes qui sèment la désolation au sein des paisibles citoyens. C'est pourquoi, encore une fois de plus, la vigilance doit être de mise et à tous les niveaux.
Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari, le retour triomphal de Fatine est un engagement assumé au service de l'Afrique. Car, dit-il, le déploiement de cette force au Nigeria et au Niger a permis d'abréger la menace terroriste et de redonner espoir et sourire à des millions de populations de ces pays voisins.
Le retour triomphal de Fatine sonne comme l'espoir. Car la secte Boko Haram n'est plus que l'ombre d'elle-même. Beaucoup ne savent pas pourquoi cette secte a changé d'appellation pour devenir État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est bien évidemment le signe patent que cette secte est écrasée. Elle est aux abois et réduite aux attentats suicides.
Rendant lui aussi hommage à ses soldats, le président tchadien Idriss Déby Itno a distingué 11 responsables des Fatine. 5 sont élevés au rang de l'ordre national avec étoile d'or. 3 sont cités dans la croix de mérite militaire dans l'ordre de l'armée avec palme d'or. 2 soldats de deuxième classe et 1 gendarme de formation sont cités dans l'ordre de régiment avec étoile d'argent. André Kodumadingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
RCA, alors que la campagne pour le référendum constitutionnel prend fin aujourd'hui à minuit, la mission onusienne MINUSCA a publié ce vendredi un premier rapport sur la situation des droits humains dans le pays. Le point avec notre correspondant Bangui Freeman Sipila.
Le document, qui contient 26 pages en français, fournit un aperçu de quelques violations des droits humains depuis le 15 septembre 2014, date du transfert d'autorité de la MISCA à la MINUSCA jusqu'au 31 mai 2015. Durant cette période, au moins 775 cas de violations des droits de l'homme affectant au moins 785 victimes ont été documentées. Ces violations des droits humains ont été commises par des milices armées, des agents du gouvernement ainsi que les forces internationales. Moussa Gassama, directeur des droits de l'homme à la MINUSCA.
Il y a des exécutions arbitraires, de tueries, de meurtres. Il y a des détentions illégales, arbitraires. Il y a aussi ce qu'on appelle les mauvais traitements, même 10 ans, la torture des victimes et manque de respect de la dignité de la personne. Et aussi les violations contre les personnes déplacées. Donc c'est ça des violations qu'on a citées dans le rapport.
Les enquêteurs demandent par ailleurs aux autorités centrafricaines de mettre la priorité sur la lutte contre l'impunité et de continuer à travailler urgemment pour la mise en place effective du tribunal pénal spécial. Entre-temps, la campagne en vue du référendum du 13 décembre prend fin ce vendredi à minuit, 23h, temps universel. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, 3 inculpés dans l'affaire Norbert Zongo. Le dossier du journaliste assassiné le 13 décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur la mort suspecte dans les locaux de la présidence de David Ouédraogo, qui était à l'époque l'un des chauffeurs de François Compaoré, le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré. Selon des sources proches de l'enquête, les 3 soldats inculpés par la justice burkinabé sont un caporal, un sergent et un soldat. Ces 3 anciens membres du régiment de sécurité présidentielle RSP, aujourd'hui dissous, sont aussi inculpés dans l'affaire du capitaine Thomas Sankara. Le dossier du président burkinabé assassiné le 15 octobre 1987 lors du coup d'État qui a conduit Blaise Compaoré au pouvoir. Et pour terminer, conférence de Paris sur le climat, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères et président de la conférence, a annoncé ce vendredi qu'il présenterait demain matin un nouveau projet d'accord, des précisions avec Nathalie Barge.
Aux côtés du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré à la presse qu'à l'issue des consultations, il sera en mesure, samedi matin à 9h, de présenter à l'ensemble des parties un texte dont il est certain qu'il sera approuvé et qui, selon lui, sera un grand pas en avant pour l'ensemble de l'humanité. Nous sommes presque au bout du chemin, je suis optimiste, a assuré Laurent Fabius. Le chef de la diplomatie française avait initialement affirmé son intention de conclure l'accord de Paris jeudi pour une adoption formelle vendredi soir. Mais la dernière version du projet d'accord présenté hier soir a fait l'objet d'intenses négociations toute la nuit, au cours de laquelle plusieurs pays ont campé sur leur position, rapporte l'AFP. Les participants à la conférence internationale sur le climat au Bourget ont beaucoup travaillé ces derniers jours et jusqu'à 6 heures du matin ce vendredi, a souligné à la mi-journée M. Fabius, précisant qu'il était sur le point de reprendre les consultations avec tous les groupes.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
On y va.